Alors, être artiste, c'est une vaste question. Et je pense que c'est une question que je continue à me poser après toutes ces années. Quand même, pour moi, c'est une manière de voir le monde, une manière de proposer une autre manière de regarder ce qui se passe autour de nous, de faire un pas de côté. J'aime bien l'idée de faire un pas de côté, parce qu'on ne va pas changer le monde, mais peut-être qu'on y contribue, même si c'est des pas de fourmi, c'est déjà ça.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison-Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? La plasticienne avec qui je discute aujourd'hui s'appelle Jeanne Susplugas. Engagée, la démarche de Jeanne Susplugas étudie toutes les formes et stratégies d'enfermement, tant pour interroger les relations de l'individu avec lui-même qu'avec l'autre. Elle s'intéresse à nos addictions, elle traite des pathologies du monde contemporain et s'applique à en traduire les signes et les symboles dans le champ des arts plastiques avec le dessin, la photo, la vidéo, la céramique ou d'autres médiums. Ce qui sourd doucement de ses œuvres donne une compréhension de notre monde qui n'a rien de manichéen. Si la maison, sous différentes formes, parfois ressemblant à une boîte ou à une valise, est très présente, elle va, tour à tour, de manière ambivalente, se laisser percevoir comme le lieu intime qui protège et rassure, mais peut également basculer dans la sensation de l'emprisonnement et de l'étouffement. La même opposition est à l'œuvre dans la problématique du médicament qui réunit soins et menaces dans le même temps, assistance et danger, habitude et accoutumance. Alors nous sommes dans ton atelier, on y voit beaucoup plus de bibliothèques, de rangements dans des casiers qui sont d'ailleurs modulables et on y voit certaines pièces en céramique, en verre. Et l'atelier, c'est à la fois le lieu du travail, le lieu de la création, de la mise en forme. Est-ce que tu pourrais nous décrire le processus de ton travail? Comment tu travailles dans ce lieu-là?
Alors l'atelier, c'est un lieu un petit peu, enfin, qui est même très singulier. Bizarrement, depuis que je suis vraiment toute petite, vraiment depuis l'enfance, j'ai toujours voulu avoir un atelier. Et je ne sais pas d'où ça vient, parce que je viens d'une famille de chercheurs et pas du tout d'artistes. Et je ne sais pas pourquoi, c'était un espace dont j'avais besoin. Et ça a toujours été un espace qui avait une forme d'ambivalence, parce que j'y passais du temps, je passais du temps à expérimenter des choses, mais finalement c'était plus l'idée d'avoir un atelier que vraiment un besoin d'un endroit physique. Surtout que j'ai grandi dans le sud de la France, et la plupart des choses, en fait, je les ai expérimentées à l'extérieur. Et finalement, ce rapport que j'ai à l'atelier, il est resté le même, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de pouvoir me projeter, mentalement. Après, j'ai pas besoin d'y être tous les jours. L'atelier ici, j'ai pas de protocole particulier. En fait, tout est en effet sur roulette. C'est beaucoup de bibliothèques sur roulette. L'idée, c'est qu'il soit modulable. Ça serait moins important pour pouvoir s'adapter en fait au projet en cours. Donc, en ce moment, je travaille beaucoup sur des grands dessins, donc il est assez rangé, relativement propre, on va dire. Et les bibliothèques dont tu parles, alors il y en a qui sont vraiment des bibliothèques. Celle qui est derrière moi, c'est en fait, à la base, c'est une installation. C'est une série en fait de bibliothèques que je fais. Ce sont c'est un mobilier modulable en fait. Et en principe, c'est des bibliothèques que je montre vides avec des pièces sonores. Qui sont en fait depuis un peu plus de 20 ans, je prends des notes par rapport aux livres que je lis, enfin dans les livres que je lis. Et en fait, je sélectionne des extraits que je fais enregistrer par des comédiens et des comédiennes, et je recrée en fait des espèces de bibliothèques qui seraient des bibliothèques orientées par rapport à mes sujets de prédilection. Et ce qui est assez marrant, c'est que d'entendre tous ces extraits, finalement, ça recrée une forme de littérature, et ça devient une sorte aussi de poésie sonore. Donc ici, c'est très différent, puisqu'ils deviennent presque des sortes de cabinets de curiosité. Et justement, c'est comme ça que Camille Frasca et Antoine Py m'ont invité à en montrer une sous forme de cabinet de curiosité à la Galerie Mansart, il y a maintenant un mois, puisqu'elle avait été fermée quelques jours après le premier confinement. Et en fait, quand ils sont venus, ils m'ont dit « Ah, mais c'est vraiment ton univers, ça te ressemble vraiment, est-ce que tu accepterais de le montrer en gros tel quel ?» J'ai un petit peu réfléchi, mais c'est quelque chose qui était déjà présent, parce que le fait de le faire à l'atelier, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de faire à l'extérieur, que j'aurais peut-être pas forcément assumé si j'avais pas eu cette invitation, d'où l'importance des commissariats. Et du coup, on a montré ça à la galerie. Alors, j'ai modifié quelques petits éléments, mais pas tant que ça au final. Et du coup, c'est aussi une bibliothèque qui est une forme de lieu de recherche. Ça, c'est tout le temps, forcément, ça bouge tout le temps. Par exemple, là, il y a des maisons. Les maisons, je suis en train de travailler dessus pour une installation. En fait, chaque maison sera sur un socle, etc. Donc là, elles sont posées là, mais et j'ai besoin de les voir évoluer. Donc voilà, c'est.
Et alors la bibliothèque, ça évoque aussi la présence des livres. Et en fait, toi, tes études d'origine, c'est l'histoire de l'art. Donc comment tu as démarré avec l'histoire de l'art et comment tu en es arrivé à être artiste ?
Alors là, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je pense que dans ma famille, on faisait plutôt de la musique. Et moi, je voulais vraiment faire de la peinture. Je dis de la peinture parce que à l'époque, je pense que je voyais à travers mes yeux d'enfant ou d'adolescente, je pense que l'art pour moi c'était quand même dessin, peinture quoi. Et bon, mes parents ont accepté que je fasse plutôt des arts plastiques quoi. Et je sais pas trop si ça a été un compromis histoire de l'art à la base ou pas. Dans mon souvenir, non, parce que je voulais vraiment faire de l'histoire de l'art. Et je pense plutôt que c'est. Je pensais pas qu'être artiste pouvait être une activité ou un métier. C'était pas ma culture, je me posais pas vraiment la question comme ça. Et donc, naturellement, je suis allée vers l'histoire de l'art. Et c'est vrai que, en fait, très tôt, je pourrais pas dire, mais vraiment, même après adolescence, je voulais déjà étudier l'histoire de l'art. Et en fait, je prenais des sortes de cours, en fait, déjà d'histoire de l'art, quoi. Et je lisais des livres là-dessus, j'allais au musée. Ma passion, elle a commencé bien avant l'université, en fait. Comme il n'y avait pas d'enseignement ni au collège ni au lycée, je l'ai trouvé ailleurs. Et je pense que je savais pas trop ce que je faisais et ce que j'apprenais, mais en tout cas, ça m'a passionné quand même très très vite. Donc je pense que c'était vraiment... Parce que parfois, je me demande si c'était un compromis. Voilà, j'arrive pas trop... Je me souviens être allée voir l'école des Beaux-Arts, et quelque chose m'avait... Il y avait quelque chose que j'avais pas trop senti. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas du tout... Il n'y a jamais eu de rupture en fait dans ma pratique. J'ai vraiment de l'enfance à aujourd'hui, je me suis jamais arrêtée. Après, c'est plutôt comment à un moment donné les choses basculent en fait. Pendant mes études d'histoire de l'art, j'ai commencé à faire des expos, des invitations comme ça, qui se faisaient un peu par des histoires de rencontres. Hein. Je me souviens qu'on m'avait sollicité pour des ventes caritatives, des choses comme ça. Et franchement, je pensais que ça resterait comme ça, que ma vie ça allait être ça. Et puis finalement, en avançant dans mes études, en comprenant mieux ce qu'était aussi un artiste, la vie des artistes, etc., c'est un petit peu naturellement que ça s'est que le basculement a opéré. Après, ça a été aussi des rencontres. Je pense que les rencontres, alors il n'y a pas de hasard, mais il y a des rencontres qu'on fait, mais il y a des rencontres qu'on provoque aussi. Et il y a des gens qui m'ont aidé en fait à passer à faire ce choix, parce qu'en fait moi j'avais vraiment un parcours universitaire qui était tout tracé et je m'en réjouissais hein, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc mais ces expos ont commencé à prendre de plus en plus de place et à un moment donné il a fallu choisir est-ce que je prenais un poste ou pas. Et finalement on m'a encouragé mon directeur de recherche aussi hein, m'a encouragé et a aussi essayé de surmonter cette espèce de... Je pense qu'il y avait une sorte de peur parce que c'était quand même quelque chose d'inconnu. Je pense que quand on fait une école d'art, On est déjà un petit peu plus préparé à ce qui va se passer à la suite. On est un petit peu sensibilisé quand même au monde de l'art, pas qu'aux expos, mais aussi au marché, etc. Moi, c'était quand même un monde assez inconnu. Et maintenant, je me dis qu'avec le recul, je pense que ça a été une chance. Alors, j'ai toujours le regret, entre guillemets, j'aime pas trop le mot de regret, parce que ça paraît tout de suite négatif, mais j'ai une forme de fantasme toujours par rapport à l'école d'art. Et quand je fais des workshops ou des jurys, je me dis, waouh, mais trop de chance, les ateliers, des techniciens qui sont là, qui peuvent aider, tous ces enseignants avec lesquels on peut échanger sur l'art. Bon, alors peut-être que je le fantasme un peu trop, mais en tout cas, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu. Mais quelque part, je me dis, finalement, l'espèce la forme d'innocence que j'ai pu avoir, peut-être qu'elle m'a quand même protégée. Si j'avais su, peut-être que j'y serais pas allée. Parce que, alors pour le coup, ça, je ne regrette vraiment pas du tout. Mais c'est quand même un parcours difficile. Et c'est peut-être pas mal d'y arriver sans avoir trop conscience de ça.
Alors, qu'est-ce que tu exposais à ce moment-là? Quelles étaient les choses qui étaient montrées? Des dessins?
Alors, au tout début, ça a été vraiment des dessins, ça je me souviens très bien. Enfin, c'était plutôt de la peinture sur papier, mais on va dire, oui, des œuvres sur papier. Et le basculement, pour moi, on va dire, plus intellectuel, tant que je faisais des dessins, tout ça, je pense que je trouvais ça relativement sans intérêt. Ça m'amusait, mais voilà. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la photographie, et surtout à la macro-photographie. Et là, tout d'un coup, quand même, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. C'est-à-dire que tout ce que j'expérimentais en peinture, tout ça, j'étais jamais satisfaite. Et en plus, le fait d'étudier l'histoire de l'art et d'avoir commencé à m'y intéresser très jeune, je voyais pas comment on pouvait apporter quelque chose, renouveler quelque chose, même si je pense pas que l'art, c'est jamais vraiment une révolution, ce n'est qu'une continuité, et puis des cycles, etc. Mais je voyais pas. Et là, je sais pas, en photo, il y a un moment, je me souviens très bien d'une image en me disant, ah, peut-être que là, il se passe un truc. Et du coup, j'ai commencé aussi à montrer de la photo. Alors, j'ai jamais fait vraiment d'expo que de photos, que de dessins. Dès le départ, j'ai mélangé les médiums. Et finalement, c'est quelque chose que je continue à faire aujourd'hui. Enfin, ça n'arrive jamais. Je pense que je montre vraiment qu'un médium, quoi.
Alors, tout à l'heure, tu disais que le parcours était compliqué et que si tu avais su, tu n'aurais peut-être pas pris. Est-ce que tu penses que, en tant que femme, ça a été encore plus compliqué?
Alors c'est compliqué parce que dire femme, c'est accepter cette espèce de binarité homme-femme qui, moi, me pose beaucoup de problèmes et qui m'en a toujours posé, en fait, depuis l'enfance. Tout ce qui se passe en ce moment sur le genre, alors on est un petit peu en retard en France par rapport à d'autres pays, mais c'est très intéressant parce que c'est en train de vraiment de faire bouger des frontières qui nous ont beaucoup enfermés. Je sais pas où ça va aller, personne ne sait, mais en tout cas, c'est déjà pas mal que ça existe. Mais si on accepte, voilà, que je suis une femme et que voilà, oui, je pense que ça reste aujourd'hui beaucoup plus difficile. Enfin, c'est pas que je pense, j'en suis sûre. C'est-à-dire que quand on commence, pareil, moi, quand je me suis orientée vers l'art, naïvement, j'ai pensé que il y aurait pas de problème, justement, que j'allais me retrouver dans un milieu. Alors, d'intellectuel, c'est peut-être un peu un bien grand mot, mais en tout cas quand même un milieu privilégié qui avait accès à la littérature, à la culture en général, etc. Et en fait, j'ai été assez déçue très vite de voir que finalement, c'était les mêmes codes que dans d'autres milieux, de ce qu'on me racontait ailleurs, etc. Même si moi, je trouve que quand même, j'ai eu à peu près de la chance dans tout ça, mais quand même, j'ai eu des problèmes vraiment qui sont liés à mon genre, quoi. Et aujourd'hui encore, on a beau dire que beaucoup de gens pensent que maintenant, on a trouvé des solutions et qu'il n'y a plus de problème, mais en fait, c'est faux. Le fait même qu'on se pose encore la question montre bien qu'il y a un problème. Et finalement, il y a des chiffres, et ces chiffres, eux, ils peuvent pas mentir. Et dans les achats des commandes publiques, les institutions en général, etc., les filles restent minoritaires, quoi. Donc, ce qui est un peu normal, hein, les galeries montrent moins d'artistes femmes, donc les commissaires ont moins de choix aussi. Enfin, faire une expo, par exemple, paritaire, moi, je serais vraiment pour ça, hein, même si je trouve que c'est aussi une contrainte qui est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas passer par là. Et ben, c'est quand même très difficile de trouver autant de femmes que d'hommes. Et sur n'importe quelle thématique, si tu lances comme ça dans un groupe une thématique, tout de suite, on va trouver une dizaine d'artistes hommes. Et on va galérer pour trouver les femmes, puisque comme elles sont moins visibles, forcément, ça va être plus compliqué, quoi. Et puis en plus, les femmes, il y a toujours quand même... en France particulièrement, on est quand même dans un pays où le patriarcat est quand même très, très présent, quoi. Et finalement, ça... On a les mêmes problèmes qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes craintes sur la maternité, il y a les mêmes craintes sur la famille, etc., que dans d'autres milieux. On n'y échappe pas du tout. Et moi, je suis hallucinée qu'on me pose la question quasiment chaque année, les étudiantes me posent la question, mais est-ce que c'est possible d'être mère? Est-ce que c'est possible d'avoir une famille? Chaque fois, je me dis, mais c'est horrible d'en être là, en fait, quoi, qu'elles se disent, peut-être que moi, j'aurai pas d'enfant parce que je veux réussir en tant qu'artiste. Et ça me semble être assez terrifiant comme problématique.
Oui, parce que pendant encore très longtemps, on disait que c'était soit l'un, soit l'autre. Et là, encore des très jeunes se posent la même question. C'est qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ça n'a pas avancé de ce côté-là ?
Je pense que ça n'a pas avancé parce que ça n'avance pas dans la société, en fait. Malgré tout, ça n'avance pas. Et là, le confinement a mis en exergue vraiment toutes ces questions-là. C'est que finalement, le confinement, il a complètement desservi la cause. On s'est rendu compte que finalement, qui s'était occupé de l'intendance à la maison, des devoirs, etc., c'était majoritairement les femmes. Tous les témoignages qu'il y a eu. Vu que ça change pas dans la société en général, pourquoi ça changerait dans le milieu de l'art? Je pense que, pareil, moi, on me renvoie souvent cette image, quand je suis dans d'autres milieux, que quelque part, j'ai de la chance que dans le milieu de l'art, c'est différent. Et en fait, je suis obligée de dire que non, en fait, c'est pas différent. Mais c'est pas différent dans le cinéma non plus, c'est pas différent dans la littérature. Le pouvoir est encore aux mains des hommes, donc forcément, il y a quelque chose d'assez logique là-dedans, quoi. Les choses changent, mais c'est très lent. Et souvent, quand on fait un ou deux pas en avant, on en fait trois en arrière. Donc, ça va pas changer comme ça. Et moi, quand je vois des étudiantes qui sont très brillantes à l'école et qui se mettent en couple et que je recroise 5 ans après, alors moi, j'enseigne très très peu, hein, mais je recroise quand même des étudiantes que j'ai pu avoir et qui sont devenues des femmes d'artistes. Je me dis, mais c'est terrifiant parce que ça, c'est pareil. Pourquoi pas, on a le droit de faire ce choix. Mais je veux dire, on connaît plein de femmes d'artistes qui ont eu vraiment un rôle majeur dans la carrière d'un artiste, mais on ne connaît pas vraiment l'inverse. On ne connaît pas d'hommes, de mari artiste.
Non, il n'y en a pas beaucoup.
Et moi, je ne saurais pas en citer un seul. Et même dans un cercle relativement proche, je peux voir dans des couples d'artistes, par exemple, que la femme a plus de succès. C'est rare, mais ça arrive. Mais l'homme n'est pas forcément un mari d'artiste. Il est là, il peut accompagner, il fait autre chose. Mmh. Alors qu'en fait, des hommes artistes qui ont leur femme et qui est secrétaire, éditrice, photographe, archiviste, je suis hallucinée, quoi.
Ouais, c'est l'assistante.
C'est ça. Et j'ai eu la chance comme ça d'être invitée pour des commissariats. Alors moi, je me sens pas commissaire, mais j'aime beaucoup l'idée que des artistes invitent d'autres artistes. Et où carrément, l'homme n'avait pas de mail, quoi. Il fallait passer par la femme. Et c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, je pensais même pas que c'était possible encore aujourd'hui, quoi.
Et pour revenir donc à la maternité, toi tu as un enfant, et est-ce que tu as vu les comportements changer à partir du moment où tu as eu un enfant? On s'est dit, elle est moins disponible, elle va pas pouvoir se déplacer, ou toutes ces questions-là.
Alors moi, ça a été flagrant. Pour le coup, pas du tout posé ces questions. Et en fait, il y a un artiste qui m'en a parlé, qui s'appelle Erwin Wurm, que tout le monde connaît, et qui m'a dit, fais attention, parce que c'est un problème. Et je me suis dit, non mais n'importe quoi, lui il fait partie d'une autre génération, même si à l'époque il faisait très jeune, il était quand même plus âgé. Et je me suis dit, mais n'importe quoi. Lui, il l'avait vécu avec sa femme, qui avait beaucoup plus de succès que lui. Et au moment de la maternité, ça s'est complètement inversé. Lui qui avait pas du tout de succès, il est monté petit à petit, et elle a complètement disparu. Et donc, il avait été quand même très touché par cette histoire. Et il me l'a dit plusieurs fois. Et une ou deux artistes aussi en France, mais bon, je me suis dit, non, mais quand même, pareil, c'est une autre génération, n'importe quoi. Et en fait, du coup, comme je m'y étais pas préparée, j'ai pris ça vraiment de plein fouet, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai été lâchée par des galeries. Alors, ma galerie japonaise, par exemple, ça a été douloureux, mais d'une certaine manière, après, je me suis dit, oui, ben, c'est vrai que le Japon... par rapport à la place des femmes, c'est quand même horrible, quoi. Leur perspective en tant qu'artiste, par exemple, elle est quasi nulle. Bon, même s'il y a quelques cas, il y a toujours quelques exemples, hein, mais... Et eux, ça a été très brutal, parce que ça faisait je sais pas combien d'années qu'on bossait ensemble. J'avais fait quand même deux expos perso, plein de collectifs, et aussi des persos dans des centres d'art au Japon. Enfin, j'étais une artiste active de la galerie, quoi. Voilà, on faisait pas mal de foires en Europe et en Asie, etc. Et du jour au lendemain, ils m'ont... quasi plus adresser la parole. C'est-à-dire qu'il me parlait que pour me dire bonjour et how is baby. J'avais pendant des années, il me disait how is baby. Et je disais, mais jusqu'à quel âge en fait c'est un baby? Et puis moi j'avais espoir qu'on reprenne naïvement. Puis après, il y a un moment, je me suis dit, de toute façon, même s'il revenait, est-ce que j'aurais envie de travailler avec quelqu'un qui a pu. Même si lui-même il est complètement embourbé dans sa culture, je sais pas. Bon, ça s'est pas présenté, donc finalement. Mais j'ai été lâchée par des Français aussi, et ça m'a beaucoup plus choquée. Et encore aujourd'hui, j'ai pas très bien compris. Mais j'ai eu des réflexions. Par exemple, je devais participer à certaines foires, donc j'avais des dates, etc. Et puis moi, j'en fais pas du tout une fierté, mais c'est vrai que j'ai repris le travail tout de suite parce que c'est avant tout une passion. Donc de toute façon, c'était pas. Enfin, je pouvais pas concevoir autre chose que ça. La même année, j'ai fait une monographie, j'ai fait plein de choses, j'ai été active tout le temps. Et des gens qui m'ont dit, oui, on t'a pas rappelé parce qu'on voulait te laisser tranquille. Mais à quel moment j'ai demandé aux autres de me laisser tranquille? Et j'ai pu voir que les filles qui vivaient les choses à peu près au même moment m'ont dit à un moment donné, il faut qu'on soit plus vigilante, quoi. Et alors que les hommes, tout de suite, qui arrivent avec un bébé, un vernissage, par exemple, nous, on va nous dire, ah, mais c'est ta plus belle œuvre. Genre, mais, alors, ça se veut gentil, mais quand même, j'ai remarqué que ça insinuait que quelque part, ben, j'allais plus rien faire. On me disait, mais comment tu vas faire? Tu pourras plus voyager, tu pourras plus. Il y a plein de manières déjà de faire un parcours d'artiste. Hein, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde spécialement, quoi. D'ailleurs, en ce moment, tout ça est pas mal remis en question aussi. Mais alors qu'un homme qui arrive avec un bébé, tout le monde trouve ça trop cute et c'est génial, mais tu te rends compte, en plus il est père, et tout de suite ça le met sur une sorte de piédestal, quoi. Et ça, c'est au début, quand j'en parlais, on me dit non mais n'importe quoi, tu psychotes, quoi. Et en fait, très vite, on m'a dit mais c'est vrai, en fait, quand tu l'observes, ça devient caricatural, quoi, au bout d'un moment. Et ça, je vois bien qu'on n'en sort pas. Moi, j'ai fait une forme de résistance. J'ai pas voulu cacher. J'ai pas voulu. Donc, je suis beaucoup allée dans des vernissages, etc. Mais j'ai senti ce regard. Je l'ai beaucoup senti quand même.
Alors, est-ce que c'est pour toutes ces questions que une thématique qui revient très régulièrement dans ton travail, elle concerne la maison, parce que la maison, a priori, dans l'imaginaire collectif, c'est l'univers du foyer et donc de la femme.
Alors c'est vrai que cette maison, elle est quand même omniprésente, et depuis le début, puisque une de mes premières installations s'appelle La Maison Malade. À la base, le mot maison était très important pour moi parce que c'était une manière de parler de ma vie, justement. Pour moi, la maison, c'est l'intime, c'est tout ce qui fait partie de ta vie, que tu caches pas forcément, mais voilà, qui est quand même quelque chose de confidentiel. Et donc, la maison malade, c'était dire, voilà, je parle de moi, mais je suis en train d'essayer de passer à une histoire sociale, quoi. Donc, la maison malade, pour moi, c'est la clé et c'est vraiment le point de départ de mon parcours. Tout à l'heure, tu me posais la question. Il y a eu cette photo, mais après, il y a eu cette installation que j'ai pensée en 97, un truc comme ça, que j'ai pu réaliser assez rapidement. Et cette maison, finalement, dans la maison malade, il y avait un petit peu tous les éléments qu'on va retrouver dans mon parcours, c'est-à-dire l'enfermement, tout ce qui est addiction, médicaments, etc. Et aussi cette maison. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est lié, en effet, au fait que je suis une femme et que le foyer, ça a toujours été le lieu dédié à la femme, quoi. Et finalement, par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure sur le genre, je me demande dans quelle mesure c'est quelque chose qui est conscient ou inconscient chez les femmes. Beaucoup d'artistes femmes se sont posé la question de la maison. Il y a eu une expo d'ailleurs relativement récemment à la Monnaie de Paris sur cette thématique-là. Je pense qu'à un moment donné, les femmes ont eu besoin de vraiment s'emparer du foyer et même dans le travail de faire un pied de nez aussi à tout ça en utilisant les tissus, la couture, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on ne se pose pas la question de la même manière, mais finalement, je me demande toujours si inconsciemment, c'est pas encore quand même toujours là. Pardon, moi, je pense pas me poser la question de la maison sous l'angle féminin, mais en tout cas, elle est quand même vraiment là, quoi. Et je me rends compte presque tous les jours de ma vie que la maison nourrit le travail et le travail nourrit la maison. Et c'est très compliqué pour moi de différencier les deux. D'ailleurs, pour moi, idéalement, je préférais que mon atelier soit chez moi. Et en même temps, qu'il soit à l'extérieur, c'est bien aussi parce que ça sépare les choses et ça aide, je pense, justement, à peut-être pas toujours essayer de désimbriquer les choses, quoi. Mais en tout cas, voilà, il faudrait peut-être pousser plus la réflexion. Mais bon, après, finalement, la maison, dans la mesure où moi, je pense pas faire un travail vraiment dit féminin, en tout cas, elle devient quelque chose dont on peut s'emparer. Et finalement, quand je fais, par exemple, les Flying House, qui sont des portraits de gens à travers des objets qu'ils prendraient de chez eux, comme il y a des portraits d'hommes, de femmes, enfin, voilà, ça la rend asexuée, si on peut dire.
Et alors, pour revenir justement sur la question de l'intime dont les femmes se sont beaucoup emparées au début des années 60, 70, et qui reste quand même au cœur de cette problématique, il y a un lien avec ta biographie aussi. C'est que tout à l'heure tu en parlais, ta famille qui est plutôt famille plutôt de scientifiques, de chercheurs, liés à la pharmacie aussi, et il se trouve que tu travailles beaucoup sur le médicament. Donc, quel est le lien ?
Ah, je pense que c'est difficile pour des artistes de pas parler, de pas partir de leur histoire. Je suis une grande lectrice, je sais pas, mais je lis quand même beaucoup. Et c'est vrai que souvent aussi, les auteurs et les autrices, ils partent de quelque chose d'autobiographique pour après transcender ça. Moi, j'en avais pas forcément conscience au moment où je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'avec le recul, grâce aussi aux critiques d'art, aux historiens de l'art qui m'ont questionné là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était complètement évident. Mais là, tout à l'heure, j'ai parlé de la photographie. Mais en fait, dès que j'ai eu un appareil photo, je ne l'ai pas vraiment utilisé pour faire des photos tout de suite. Ça a été de la macrophotographie. Et j'insiste sur le fait que pour moi, quelque part, ce n'était pas de la photo. Parce qu'en fait, j'ai refait un geste qui était familier. C'est-à-dire, mes parents, ils nous montraient quasiment toutes les semaines, enfin, je ne sais plus, mais des choses au microscope. Et en fait, j'ai par mimétisme, quand j'ai pris l'appareil photo, ça a été pour regarder des toutes petites choses. Et ça, je ne pense pas l'avoir fait consciemment. Mais aujourd'hui, ça me paraît vraiment complètement évident que j'ai eu ce geste d'une chercheuse, quoi. Et par rapport à la maison malade, pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était vraiment parler de cette maison. Alors, c'est pas qu'il y a des gens malades chez moi, mais forcément, comme mes parents, grands-parents étaient chercheurs à la fac de pharmacie, ça parlait beaucoup de choses comme ça, de plantes médicinales, etc. On allait herboriser avec eux, donc ça faisait vraiment partie de ma vie. Donc en fait, les médicaments, ça symbolisait ça, cette histoire familiale, que j'ai poussée après moi à l'extrême, parce que ça parle pas que de ça, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où on cherche un basculement, ça parle de surconsommation, etc. etc. Mais ça me permettait de... Je pense que c'était à la fois partir de mon histoire, mais c'était aussi, je pense, quelque part, une manière d'embarquer aussi ma famille avec moi dans cette aventure. Parce que c'est jamais évident c'est presque un coming out de dire, en fait, c'est ça que je vais faire, je vais être artiste dans une famille qui est plus scientifique, où tu as été, où voilà, tu fais des études, etc. Je pense que c'est évident pour personne à un moment-là de dire, voilà, c'est ça que je vais faire, quoi. Et je pense que c'était une manière aussi de les embarquer dans mon histoire. Là, c'est presque psychanalytique ce que je suis en train de raconter, hein, mais. Mais je pense que quand on parle de son histoire, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, quoi. Donc il peut être sous forme plus de dénonciation, qui peut être plus sous forme justement thérapeutique. Enfin, il y a plein de manières de partir de son histoire. Je veux dire, en ce moment, on est en plein dedans avec le bouquin de Kouchner, etc. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher les parler plus sombres. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus... beaucoup plus, j'allais dire, tendres, mais oui, et plus émotionnelles, mais dans quelque chose de positif, quoi.
Et donc, en effet, toutes les idées qui te viennent et que tu vas essayer de mettre en forme viennent en effet de tout ce que tu vis autour de toi et perçois du monde et même aussi, tu viens de le dire, d'univers plus familier et personnel. Ensuite, comment fais-tu pour les mettre en forme ? Parce que tu utilises des médiums très variés. Et donc, comment, petit à petit, quand l'idée a germé, tu te dis, tiens, ça sera un bon dessin, ou ça sera plutôt quelque chose qui sera à volume, ou qui sera une vidéo, ou je ne sais quelle autre forme encore tu vas donner ?
Alors, c'est vrai que pour moi, les médiums sont plutôt au service des idées, quoi. Donc, je vais réfléchir, essayer d'approfondir quelque chose que j'essaye d'exprimer. Et ensuite, je me dis, mais quel médium va être le plus juste pour ça ? Alors, la plupart du temps, c'est, il y a quand même une espèce d'évidence, mais pas toujours, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que très vite, dans mon travail, il y avait quelque chose qui s'opérait, c'est une forme de déclinaison, quoi. Et ce mot de déclinaison, d'ailleurs, pendant un moment, il m'embêtait un petit peu. Et finalement, je me suis dit, mais non, en fait, au contraire, je l'assume complètement. C'est que finalement, je me suis rendu compte que dans ma tête, c'était jamais complètement fini. Quelque chose n'est jamais complètement fini. Déjà, c'est compliqué le moment où tu dis, ah, tiens, là, un dessin voilà, là, il est terminé, il faut le laisser, quoi. C'est jamais très facile. Mais au-delà de ça, c'est plus complexe chez moi. C'est-à-dire que j'aime l'idée que justement un dessin peut devenir une pièce lumineuse, peut devenir une pièce sonore, peut devenir autre chose. Et justement, je parlais de littérature. Quand j'ai commencé à travailler vraiment avec des écrivains et des écrivaines, là, je me suis rendu compte à quel point la déclinaison était quelque chose d'important pour moi. C'est-à-dire que j'ai commandé un premier texte à Marie Dariussec, il y a pas mal d'années maintenant, et ce texte, c'était vraiment comme une source à laquelle je pouvais sans cesse revenir. Et d'ailleurs, je lui ai présenté dès le départ comme ça, quoi. Et ce texte est devenu une pièce sonore. Ensuite, il est devenu une performance. Ensuite, il est devenu... J'ai extrait une phrase qui est devenue une phrase lumineuse que j'ai ensuite transformée en dessin, etc. Jusqu'à ce que je fasse un film qui s'appelle Iatrogène et qui était presque la fin d'un cycle, mais pas forcément non plus, parce que c'est un film qui est important dans mon parcours et que je montre régulièrement. Et finalement, je me dis, il y a peut-être un moment où je vais aller encore chercher quelque chose là-dedans que j'aurais peut-être pas entendu ou perçu de la même manière, parce qu'à chaque époque, évidemment, on perçoit les choses différemment. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Là, je viens de terminer un film que j'ai pas encore montré parce que toutes les programmations qui étaient prévues ont été annulées. Mais j'ai fait un film avec des marionnettes. Et ça a été un long processus déjà de savoir est-ce que les marionnettes c'était vraiment ce que je voulais faire, quel type de marionnettes. Finalement, ça a été assez long de voir que il y a tout un univers des marionnettes, donc j'ai dû lire beaucoup de choses, me documenter, etc. Et l'idée, c'est que le film existe, il y a une série photo. On devait faire une performance pour Nuit Blanche, pareil, finalement, c'est moi qui ai décidé de l'annuler parce que c'était pas la manière dont je voulais le montrer, parce qu'avec les normes sanitaires, tout a changé au dernier moment, etc. Mais en fait, j'ai réfléchi à une performance avec des marionnettistes. Et là, je suis en train de me dire que, en fait, j'ai commencé à faire des dessins qui s'éloignent évidemment de ces marionnettes, mais qui sont. Je tire des fils, en fait, quoi. Mm-hmm. Et j'aime cette idée. Et finalement. Ce que j'aime pas trop, c'est, enfin, ce que j'essaie de pas faire, c'est qu'un médium soit choisi de manière un peu sans raison, quoi. Pour moi, c'est vraiment important qu'il raconte quelque chose. Par exemple, là, il y a des céramiques, tu parlais de céramiques. J'avais fait une série photo, je sais pas, j'avais commencé à plus de 20 ans, j'avais commencé à prendre des photos des corbeilles de fruits chez les gens parce que j'avais remarqué que souvent il y avait du magnésium ou de la vitamine C qui était glissé entre les pommes et les poires. Et ça me faisait rire, ce truc, quoi. Et je savais pas du tout ce que j'allais en faire, ces photos, et je les trouvais pas tellement bien en tant que photo, quoi. Et puis un jour, on m'a invité à faire une résidence de céramique, et tout d'un coup, là, c'est devenu une évidence, parce que la céramique, quand même, la tarte à la crème, c'est quand même la coupe de fruits posée, et en plus, dans l'histoire de l'art, c'est quand même très intéressant, voilà, qu'il y a un élément comme ça qu'on retrouve à travers les époques, et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, il faut que je reprenne ces photos et que je les fasse en volume, mais c'était, voilà, une évidence, quoi. Et là, dans le style aussi, ça faisait quelques années que je m'intéressais à la réalité virtuelle, et je me disais que c'était totalement fascinant et que j'adorerais faire quelque chose en VR, mais je voyais pas trop dans mon travail comment j'allais pouvoir l'aborder. Et en fait, j'ai commencé à faire il y a 4-5 ans des portraits qui s'appellent In My Brain, donc où je demandais aux gens de me livrer leurs pensées, voilà, du moment, quoi. Donc des pensées très diverses et variées, hein, des pensées du moment et puis des pensées un petit peu plus obsessionnelles ou profondes, voilà. Et pareil, ces portraits, j'ai commencé à les montrer. Et puis j'ai été invitée par Le Bon Marché à faire pour un événement autour du numérique. Et en fait, j'ai repris ces dessins. Et j'ai fait une petite appli Snapchat. Et en fait, c'était un tout petit voyage de 10 secondes où en fait, il fallait regarder son écran, lever les sourcils. Et hop, on avait l'impression de rentrer dans son cerveau. Et c'est un micro-voyage à travers des synapses, comme ça, des pensées. Et à la fin, on arrive au Bon Marché, c'était un objet. Mais après, je l'ai un petit peu changé, ce projet. Et en fait, de manière aléatoire, en fait, personne n'arrivait sur le même objet. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit « Waouh, mais comment vous avez fait pour savoir à quoi j'étais en train de penser et tout ça ?» Au début, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et en fait, le cerveau, c'est quand même assez puissant. Et pendant quelques secondes, en fait, on peut « tromper » entre guillemets, les gens, quoi. Et je me suis dit « Mais c'est ce projet-là qu'il faut que je fasse en réalité virtuelle. » Et du coup, j'ai... ce projet, c'est en fait on met le casque de réalité virtuelle et là on voit une petite maison en lévitation qui symbolise la boîte crânienne, et quand on rentre dans la maison, on se retrouve dans un univers comme ça infini de synapses et de pensées, il y en a des centaines, et il y a une navigation qui commence. Après, je vais pas raconter toute l'histoire, mais voilà, on part d'idées plutôt joyeuses à des idées un petit peu plus sombres. Donc voilà, et pour moi c'est important de que le médium vraiment accompagne la penser plutôt que de coller des choses comme on... Voilà.
Et donc on a bien compris que ce système de pensée par déclinaison, ça c'est vraiment le cœur de ton process de travail. Et aussi, et c'est revenu plusieurs fois dans notre conversation, c'est le travail avec les autres. Donc tu as parlé de Marie Dariussec, d'autres écrivains qui t'inspirent, dans lesquels tu vas chercher des phrases. Tu as travaillé avec des performeurs, avec des danseurs, avec quantité de gens différents. Mais même aussi, quand tu es invité dans des expositions, souvent tu invites aussi d'autres plasticiens à participer à l'exposition. Donc ça veut dire que tu aimes le travail collectif, tu aimes l'échange, tu aimes le partage, plus que travailler seul dans son coin, comme malheureusement on peut se sentir parfois un peu isolé dans son atelier.
Alors, paradoxalement, je passe beaucoup beaucoup de temps seule, la plupart du temps je suis seule et j'adore ça, mais après dans le travail, j'aime ces échanges parce que je pense qu'on se nourrit les uns les autres, et j'aime pas beaucoup que tout soit un peu séparé, art plastique, art vivant, la musique, on sépare beaucoup les choses, alors que je pense que tout est poreux en fait, et que c'est cette porosité qui est intéressante, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler aussi avec Marie-Gabrielle Duc, avec Basile Panurgia, enfin des gens que je trouve fantastiques, et leur écriture, leur pensée nourrit la mienne, et j'espère qu'ils se nourrissent un petit peu aussi de la mienne, forcément, puisque je leur donne des directives, si je puis dire, même s'il y a une très grande liberté. Et j'espère que ça aussi, ça les emmène un petit peu ailleurs. Et là, je viens de faire un projet avec le jeu de paume. En fait, j'ai été invitée par Marta Ponza. Ils ont une plateforme numérique depuis des années, hein. C'est pas du tout lié à la situation actuelle. Et en fait, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de réfléchir par rapport au confinement? Et je lui ai dit, bah écoute, ça c'est parfait, parce que ça fait quelques semaines que je collecte en fait des témoignages sur le confinement. Et je l'avais plus pensé... Comme un film, mais il y avait quelque chose dans la temporalité qui m'embêtait, parce que je pense qu'il y a quelque chose justement dans une vraie immédiateté qui est intéressante, quoi. Et en fait, là, j'ai travaillé avec Claire Castillon, qui est pareil, une autrice que j'aime beaucoup. J'avais lu Insectes il y a quelques années, et ça fait partie de ses livres où tout d'un coup... On sent qu'on ne sera pas exactement la même personne après cette lecture-là. Et ça, c'est assez magique, hein, d'ailleurs, mais ça peut le faire avec d'autres choses. Hein, mais, et en fait, moi, j'ai donc collecté ces témoignages, et je les ai donnés de manière un peu brute, comme ça, à Claire Castillon. Et l'idée, c'était qu'elle parte de ces témoignages, voilà, comme c'était une sorte de point de départ, et qu'elle réécrive, en fait, à sa manière, ces histoires. Donc parfois, elle est restée très proche du témoignage, et parfois, elle s'en est un petit peu éloignée. Et donc là, c'est une façade comme ça, il y a 12 fenêtres, et on clique sur une fenêtre, ça s'ouvre sur une animation, et on entend le texte de Claire Castillon. Et justement, ce que j'aime dans les collaborations, par exemple, c'est qu'elle, elle ne voulait pas que m'envoyer les textes écrits, parce qu'elle m'a dit, en fait, lire un texte écrit, c'est pas joli, parce que c'est pas de la même manière, c'est pas la même littérature. Et donc, elle s'est enregistrée sur WhatsApp, et elle m'envoyait comme des petites capsules, et en fait, j'étais envoûtée par cette voix, et par ces moments où j'écoutais mon téléphone, et du coup je lui ai demandé qu'on garde sa voix, et du coup le son est même pas vraiment très bon, mais j'ai voulu garder cette idée de presque d'un appel téléphonique. Donc on est entre l'appel téléphonique, la confession, la pensée, plus une pensée avec soi-même, voilà, par rapport à l'enfermement, etc. Et justement encore par rapport à cette idée de déclinaison, pour l'instant jusqu'à septembre c'est sur la plateforme du jeu de paume, mais là j'ai déjà commencé à faire le montage, en fait, je suis en train de le monter en sorte de film d'animation, et je vais voir je vais voir ce sera pas du tout la même chose que là. On est actif, on choisit les fenêtres, etc. Là, on sera beaucoup plus passif, et c'est aussi quelque chose que je suis en train de réfléchir, qui sera sous forme aussi de performance. Et ça m'intéresse parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a une déclinaison, c'est aussi un pas de côté, parce qu'en fait, ça ne sera pas la même manière de percevoir les choses, ce ne sera pas la même lecture. Donc en fait, c'est quand même à chaque fois comme une nouvelle pièce, quoi.
Merci beaucoup, Jeanne Susplugas. On va se quitter avec une dernière œuvre, celle qui t'a marqué. Peut-être quand tu étais enfant ou au cours de ton parcours, et peut-être c'est cette œuvre qui a fait que tu as eu envie d'être artiste plasticienne.
Alors une c'est
difficile.
Une, c'est difficile parce que apparemment j'étais passionnée par l'art très tôt, et c'est vrai que j'ai plein d'images. Je me souviens quand même de moments quand j'ai été un petit peu plus grande et peut-être à l'université. Mais je me souviens d'un voyage en Allemagne où vraiment j'ai fait que de l'art contemporain, j'étais très jeune, et j'ai été bouleversée par Beuys, des installations de Beuys, moi je connaissais pas du tout. Et une œuvre de Liechtenstein qui était à Cologne, enfin qui est toujours à Cologne, où vraiment j'ai eu des émotions, vraiment à avoir les larmes aux yeux, quoi, aussi de voir des choses que j'avais pu voir. Alors à l'époque c'était des diapositives, où tout d'un coup ça devenait réel, quoi. Et c'est plus ça qui m'a marqué, le fait que des choses puissent devenir réelles, rentrer vraiment dans ma vie, qu'une pièce en particulier, quoi. Mais je me souviens quand même de ces Beuys et puis de cette œuvre de Liechtenstein, qui, voilà, ça avait été très fort.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.